Voilà, je commence. On a choisi d'ouvrir ce séminaire autour de la valeur du travail par une intervention intitulée « Le travail entre sacré et profane ». Donc c'est cette énigmatique entre deux, entre sacré et profane, où semble devoir se situer le travail qui va faire l'objet de notre réflexion. Énigmatique entre deux, vécue dans la tension du travailleur, s'interrogeant sur le sens réel de son effort, entre sacré et profane. Concrètement, cela se traduit par des questions qui engagent, qui engagent l'existence, mettant le travailleur sous tension, tension parfois difficilement soutenable. Alors, l'exemple de questions qui peuvent surgir dans cette tension, travaillant, suis-je en train d'accomplir une mitzvah, c'est-à-dire de me conformer à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ou bien de voler du temps sur mon temps d'études? Ou bien encore, puisque l'un n'exclut pas l'autre, peut-être les deux à la fois. En effet, avoir conscience de l'importance de ce que l'on est en train de faire n'exempte pas forcément, nous le savons bien, d'un sentiment de prendre du temps sur son étude. Et peut-être doit-il en être ainsi, comme a l'air de le dire cette Mishnah de Avot, « Aaseh toratra keva », tu feras de la Torah une occupation constante. D'où la tension entre ces deux aspects cohabitant dans l'esprit du travailleur. Où doit-il situer son travail dans sa vie? Mais la tension se limiterait-elle à un simple problème d'emploi du temps? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce soir. Voilà. Et le texte de référence que l'on va étudier est une Mishnah du traité Avot. Je cite « Oev et Amelacha, Usna et Arabanut » aime le travail et est la fonction dirigeante, est le pouvoir. Plus précisément, nous allons nous arrêter, nous limiter à la première proposition de cette Mishnah qui nous dit « aime le travail ». Première question simple, qu'est-ce qui dans le travail devrait ou pourrait justifier mon amour? Quel est cet amour? Deuxième question, dérivée de la première, impliquée dans la première, quelle serait l'attitude allant à l'encontre de l'amour? Du travail. En effet, si l'amour est affaire de choix, pour mieux comprendre à quoi engage le travail, il convient de se demander quelle est l'alternative à cet amour. Qu'est-ce que serait l'alternative à l'engagement, à l'injonction d'aimer le travail? De quelle attitude à l'égard du travail cet amour va-t-il nous garder? Alors, première possibilité de réponse simple, on va dire, ce serait... L'alternative, ce serait l'éloge de la paresse, la complaisance dans l'inactivité. Aime le travail, cela sous-entendrait « garde-toi de la paresse ». Évoquons une deuxième possibilité de réponse à la question avant d'aborder la troisième qui va faire l'objet de notre étude. Cette deuxième possibilité est suggérée quand on remet dans son contexte « aime le travail », donc dans le contexte de la Mishnah. « Aime le travail et est la fonction dirigeante ». Une lecture possible, serait d'entendre que le pendant, l'alternative de l'amour pour le travail, ce serait l'amour ou du moins la non-haine pour toute position dirigeante. Je m'explique. Enfin, on pourrait peut-être entendre ces Mishnah sous cette forme. Aime le travail, car sinon, tu ne seras pas capable d'haïr le pouvoir, de rejeter l'attitude de domination. Possibilité de lecture de cette Mishnah. Bref, on va maintenant aborder la troisième possibilité de réponse à la question « Quelle serait l'alternative à cet amour et quel est cet amour ?» Nous avons choisi de suivre dans cet exposé une indication trouvée dans un texte des Avot de Rabbi Nathan. Petit quart d'heure culturel. Les Avot de Rabbi Nathan sont un des nombreux recueils de Braïtot. Ces enseignements, qui font partie intégrante de la loi orale, n'ont pas été retenus par Rabbi Yehuda Hanassi lors de sa compilation des Mishnayot, au tout début de notre ère. Mais certaines de ces braïtot ont été rassemblées dans différents recueils ultérieurs, et l'un de ces recueils s'intitule « Avot de Rabbi Nathan ». Alors ce texte va reprendre donc l'énoncé de la Mishnah, mais va lui donner un certain relief qui va nous guider dans notre recherche. Alors, que veut dire « aime le travail » Je cite. « Que veut dire « aime le travail » ?» Aime le travail t'enseigne qu'un homme doit aimer le travail et ne pas haïr le travail. Voilà la troisième possibilité de réponse à notre question. Donc la question, quelle peut être l'alternative au choix d'aimer le travail? Ici, le pendant de l'amour du travail est la haine du travail lui-même. L'amour du travail auquel nous convie la Mishnah semble devoir impliquer le rejet d'une attitude de haine possible à l'égard du travail. Remarquons d'abord que la mise en garde contre cette attitude de haine implique que cette haine serait justifiable, qu'elle aurait un contenu de pensée. C'est donc à cette justification de la haine du travail que la Braïta s'attaque. On aurait donc pu haïr le travail, et ce sans s'en cacher honteusement, sans que ça soit simplement une attitude, disons, animale de paresse, puisque la Mishnah, ou du moins la Braïta de Rabbi Nathan, a jugé bon et nécessaire de nous enseigner l'erreur qu'il y aurait dans cette attitude. Erreur de jugement donc, qui conduirait à la haine du travail et non simple haine irréfléchie. On va voir que cette lecture va se trouver confirmée dans la suite de notre recherche. Voilà donc, aime le travail. Voilà, que veut dire aime le travail? Aime le travail t'enseigne qu'un homme doit aimer le travail et ne pas haïr le travail. Nous avons là autre chose qu'une simple redondance, qu'une simple répétition inutile. En effet, on entend dans l'injonction de ne pas haïr le travail la réfutation d'une pensée allant beaucoup plus loin qu'une simple remise en question de l'amour pour le travail. Même si certains diront que les sentiments d'amour et de haine sont souvent voisins, parfois issus l'un de l'autre, pour autant cela ne ramène pas l'un de ces sentiments à la simple négation de l'autre. Il y a dans la haine bien plus que du non-amour, et inversement. À la première question que nous avions posée en ouverture de notre propos, qu'est-ce qui dans le travail devrait justifier mon amour, vient donc s'ajouter une deuxième question, qu'est-ce qui dans le travail aurait pu justifier ma haine? Pour répondre à ces deux questions, nous allons poursuivre le texte des Avot de Rabbi Nathan. Je cite, « Il arrive qu'un homme réalise un travail et soit sauvé par là même de la mort. Et il arrive qu'un homme ne réalise pas de travail et se rende en cela passible de la peine de mort céleste. » Chayav Mita la Shamaïn. On a ici un nouvel élément, pour ainsi dire, qui est mis en relation avec le travail et le non-travail, qui est la mort. Comme si le choix de travailler ou de ne pas travailler avait forcément pour enjeu la vie ou la mort. J'ai oublié de préciser que cet enseignement venait de Rabbi Akiva. Donc on va suivre le développement de Rabbi Akiva. Dans les deux volets de l'enseignement de Rabbi Akiva, donc un homme réalise un travail et est sauvé par la même de la mort. Deuxième volet, un homme ne réalise pas de travail et se rend passible de la peine de mort céleste. Pardon. Dans ces deux volets, nous apprenons en effet que la réalisation d'un travail, sauve d'une menace de mort dont on ne nous dit pas a priori de quelle nature elle est. Quelle est cette mort? Aucune indication pour l'instant. A l'inverse, on nous indique que la non-réalisation de travail aurait pour conséquence de nous rendre passibles de la peine de mort céleste. Pardon? Peut-être. Ouais. Aurait éventuellement, oui, vous avez raison. Il arrive qu'un homme ne réalise pas de travail et se rende en cela passible de la peine de mort céleste. Aurait pour conséquence éventuelle donc de nous rendre passibles de la peine de mort céleste. Deux morts donc, l'une dont nous sauve ou peut nous sauver la réalisation d'un travail, l'autre, sanction céleste, qui est la conséquence de la non-réalisation d'un travail. On constate que l'amour ou la haine à l'égard du travail sont mis en relation avec le fait d'être sauvé de la mort ou d'être passible de mort céleste. Reprenons les deux enchaînements. L'un positif, donc amour pour le travail, réalisation d'un travail, être sauvé de la mort. l'autre négatif, haine pour le travail, non-réalisation d'un travail, passible de peine de mort céleste. Donc ces enchaînements ne sont pas nécessaires, mais éventuels. On a montré que la haine ne devait sans doute pas s'entendre comme la simple négation de l'amour. Il faut maintenant remarquer qu'à l'autre bout de la chaîne, la mort dont est passible celui qui ne travaille pas n'est pas celle dont celui qui a travaillé pourra être sauvé. Il serait faux de dire que la mort dont est sauvé celui qui a travaillé est celle-là même dont est passible celui qui n'a pas travaillé. Le Chayav Mita, les Shamaïm, la Shamaïm et la Mita dont l'autre est Mitnatzel est sauvé, ce n'est pas la même mort. J'explique. On continue pour comprendre un peu, pour répondre à ces questions. Enfin, il va falloir aller jusqu'à la fin de l'enseignement de Rabbi Akiva pour donner un sens à ce qui reste pour l'instant énigmatique. Donc, dans la suite de son enseignement, Rabbi Akiva va donner un exemple qui nous semble pouvoir éclairer tout l'enchaînement. Donc, de quoi s'agit-il? Je cite, de quoi s'agit-il? Si un homme est resté toute la semaine sans travailler, et à l'arrivée du Shabbat, il n'a rien à manger, possédant l'argent appartenant au Hekdesh, donc le Hekdesh, l'argent appartenant au Hekdesh, il s'agit d'argent réservé et destiné à la trésorerie du Beth Amikdash, du Temple, il le dépense, donc cet homme qui n'a pas travaillé, n'ayant rien à manger, il dépense cet argent pour sa consommation personnelle et se rend passible de la peine de mort céleste. Mais, je continue la citation, mais si cette personne est en train de prendre part à la construction du Beth Amikdash, donc du temple, même si on l'a rétribué avec de l'argent qui appartient au Hekdesh et qu'il le dépense, il se sauve par là de la mort. Fin de citation. Apparaît maintenant la notion du Hekdesh, puis, dans le deuxième exemple, du Bet Amikdash. Rappelons que ces deux mots viennent de la racine Kadosh, sacré, saint. Le Hekdesh est ce qui appartient à la trésorerie du Bet Amikdash, comme je l'ai dit. Nous allons essayer de montrer en quoi cette notion de Kadosh, de sacré, est le chaînon final qui va donner son sens aux deux enchaînements que nous avons décrits. Celui commençant par l'amour du travail et celui qui commence par la haine. Rappelons les deux enchaînements en y intégrant les nouvelles données. Donc l'enchaînement positif, on va dire. L'amour pour le travail, la réalisation d'un travail, construction du Beth Amikdash, consommation à partir du Hekdesh, être sauvé de la mort. Deuxième, négatif, haine pour le travail, non-réalisation d'un travail, consommation à partir du Hekdesh, passible de peine de mort céleste. Revenons maintenant au texte qu'on vient de lire. On relève cette présence du Hekdesh dans les deux cas de figure considérés par Rabbi Akiva. Donc celui qui travaille, celui qui ne travaille pas. Dans le premier cas de figure, l'homme chômant, ne travaillant pas, et finissant par dépenser de l'argent du Hekdesh, on peut s'étonner de cette présence du Hekdesh. Pourquoi le manque de ressources, le manque de nourriture entraînerait-il la dépense de l'argent appartenant au Hekdesh, plutôt que de l'argent volé ou tout autre moyen, de pallier une absence de ressources? Pourquoi cette entrée en scène de l'argent du Hekdesh? Première question. Dans la deuxième partie de l'exemple, par contre, le Hekdesh apparaît comme rémunération d'un travail. Travail d'un homme qui prend part à la construction du Beth HaMikdash, du temple. Ce travail est donc intégralement dans le domaine du Hekdesh. Et donc déjà intégralement dans le domaine du Hekdesh, qui après coup pourra, le cas échéant, constituer son salaire. D'accord? C'est plus ou moins clair? Je continue. Avant de commenter cette présence du Hekdesh et de comprendre son lien à la mort, qu'on n'a toujours pas expliqué, il nous semble important de souligner le coup de théâtre final de l'enseignement, si on ose dire. Voilà l'étonnement. Rabbi Akiba commente une Mishnah qui nous dit d'aimer le travail. Donc, a priori, le travail, tout type de travail. Et finit son enseignement en justifiant cet amour à partir de l'exemple de la construction du Beth Amikdash. Le sens d'aimer le travail ne pourrait-il s'entendre qu'à partir du travail mis en œuvre dans la construction du Beth Amikdash? Qu'est-ce que ça signifie? Et donc du travail, parce que la construction du Beth Amikdash, c'est le travail qui se rapporte intégralement au Kodesh, au sacré. Donc, dès lors, qu'en est-il du travail concerné par le profane? Du travail profane, oui. On rappelle qu'on a commencé notre intervention en décrivant brièvement le travail comme une tension entre profane et sacré. Ici, tout se passe comme si Rabbi Akiva mettait cette tension à son comble. L'amour du travail dans le profane est intégralement référé au travail de construction du Beth Amikdash. Soyons bien clairs, la question, ou devrait-on dire le défi, est d'arriver à comprendre en quoi le travail par excellence, le travail qui donne son sens à tout autre travail, est celui de la construction du Beth Amikdash. Avançons ce début de réponse. Donc on commence par la fin. Après on remontera pour expliquer le sens de l'enseignement de Rabbi Akiva. Donc pour bien mettre en évidence le problème, on partira d'une définition, disons, commune du travail, entendu comme manière qu'a l'homme de prendre position dans le monde, puisqu'on peut considérer que ma confrontation au monde réel passe essentiellement par le travail. C'est par lui que je définis mon positionnement dans le monde. C'est par le travail que je me confronte et cherche à transformer les résistances que m'oppose le monde réel, aussi bien monde matériel que monde social. Donc transformer ces résistances, et ce, afin de me poser, de résider dans ce monde. Travailler dans ce sens-là, ce serait œuvrer à s'assurer d'une place dans le monde. Maintenant, revenons à la description, enfin à ce qu'implique la question du travail comme construction du Beth Amikdash. On admettra que construire le Beth Amikdash, c'est permettre la résidence de la Shrina, présence divine, sur terre. Donc, rappelons le coup de force de Rabbi Akiva, la construction du Beth Amikdash justifie, donne son sens à l'amour de tout travail. À partir de cet enseignement-là, on va pouvoir comprendre le travail comme une activité visant à faire résider Hachem dans nos actes profanes, à mettre de la Torah dans le monde. Autrement dit, si la confrontation avec le monde la plus accomplie est le travail, alors il ne faut pas penser que cette confrontation, que dans cette confrontation, pardon, se perdrait nécessairement mon rapport au Kadosh, au Saint, au séparé. Nous reviendrons bien entendu sur ce sujet un peu plus tard, mais reprenons pour l'instant notre étude de texte. Acceptons maintenant le lien entre travail et Ekdesh, ou Kadosh, comme nous venons de l'établir brièvement. Et il paraît intéressant d'étudier l'articulation entre ces deux thèmes dans l'enseignement de Rabbi Akiva. On s'était interrogé, donc plus précisément, donc on s'était interrogé sur l'entrée en scène de l'argent du Ekdesh dans l'illustration, dans l'exemple de l'homme qui n'aurait rien à manger à l'approche du Shabbat, parce que n'ayant pas travaillé toute la semaine, et qui en viendrait à consommer de l'argent du Ekdesh, à utiliser de l'argent du Ekdesh. Consommation interdite puisque désacralisante. À partir de ce qu'on a dit avant, donc l'idée qui est exprimée ici est qu'il y aurait du Chilul HaKodesh, de la profanation, dans ce refus de travailler. Dans l'optique qui est la nôtre, nous dirions la chose ainsi. L'homme qui aurait voulu opter pour une vie sans confrontation avec le monde, un kulo kodesh au sens littéral du terme, tout kadosh, tout sacré, tout saint, se voit obligé d'en arriver à profaner le kodesh, se voit obligé de profaner le kodesh, ce qui appartient au Beth Amikdash, au service d'Akadosh Baruch Hu, À vouloir tout sacraliser, il en vient à désacraliser ce qu'il est véritablement. Ajoutons qu'on voit que se confirme l'idée que la haine du travail dont on parle ici, dont il est question ici, se fonde dans une pensée, dans un rapport au kadosh. Rapport vicié, mais rapport. Rapport au sacré qui se traduit par un refus de prendre position en ce bas monde, en ce monde. Et cet homme est passible de la peine de mort céleste, de n'avoir pas su établir un rapport juste dans sa vie avec ce qui est Kodesh et avec ce qui ne l'est pas. La vie n'a de sens que dans la séparation, le maintien de cette séparation entre le Chol et le Kodesh. Voilà une lecture de l'enchaînement travail Ekdesh mort. Donc dans le cas de celui qui est Chayav Mita de ne pas avoir travaillé. Mais la suite va encore plus loin. Reprenons notre texte de référence dans la deuxième partie de l'enseignement de Rabbi Akiva. Mais si cette personne, donc je cite, mais si cette personne est en train de prendre part à la construction du Beth Amikdash, du temple, même si on la rétribue avec de l'argent qui appartient au Ekdesh et qu'il l'utilise, il se sauve par là de la mort. Fin de citation. Nous avons, comme dans la première partie, affaire à un homme qui veut entretenir un rapport au Ekdesh. À la différence que pour le premier, cela passait par une abstention de travail. Pour le second, cela passe par son travail, qui est de construire le Beth Amikdash. Et nous avions relevé que le texte nous dit de cet homme que son travail le sauve d'une menace de mort qui pesait sur lui. Comme pour dire que le rapport au Ekdesh, au sacré, est une chose dangereuse. Et que l'on peut être sauvé de ce danger par le travail. En usant du Ekdesh qu'il avait reçu comme salaire, en faisant Chol ce Kodesh, en faisant profane ce sacré, cet homme s'est mis en danger, mais il a été sauvé par son travail. Le travail est donc une activité me permettant d'intégrer du Kodesh dans mon quotidien. Il le sanctifie. Dit autrement, et on va essayer d'expliquer plus loin ce dit autrement, il permet de désacraliser de manière juste le sacré. Donc nous avons là une nouvelle version du rapport travail-ekdesh-mort. Le travail comme bon moyen d'intégrer du Kodesh dans ma vie et qui me sauve du danger que représente un rapport au Ekdesh qui se voudrait détacher de tout rapport au profane. Une question surgit. Pourquoi serait-il nécessaire d'intégrer du Kodesh dans mon rôle, du sacré dans mon profane, dans ma vie profane? Le risque de nier la transcendance du sacré est grand. Ne faudrait-il pas maintenir la séparation entre profane et sacré jusqu'au bout? Après tout, on a vu que l'intégration du Kodesh dans mon rôle présentait un danger de mort. Quel sens donner à ce danger? Ces questions demandent de revenir à notre définition du travail et de comprendre en quoi le travail est le moyen de maintenir une distance avec ce à quoi j'aspire. Donc on va essayer de voir, de développer cette notion de distance établie par le travail. Comme ma confrontation au monde réel passe essentiellement par le travail, donc ça c'est notre thèse, on va dire, c'est par celui-ci que je définis mon positionnement dans le monde. Mépris, amour, conquête. Cette idée sera plus amplement développée dans le troisième cycle du séminaire. Et si ma position dans le monde est si déterminante, c'est parce qu'elle définit également mon rapport au Kodesh. Le rapport au Chol est en même temps une définition, une manière de se rapporter au Kodesh. Le Kodesh ne peut se vivre de manière autosuffisante. Comme on l'a vu plus haut, l'homme qui se laisserait séduire à une vie Kulo Kodesh serait passible de peine de mort céleste. Pour mieux comprendre le sens de cette mort, il nous semble intéressant de reprendre la mise en parallèle faite dans l'introduction entre Kodesh, sacré, et étude ou pensée. Donc on disait que la question concrète qu'on pouvait se poser dans cette tension, c'est est-ce que mon travail est une... Est-ce que le sens de mon travail... Comment articuler, pardon, le sens de mon travail dans le profane et mon rapport au sacré, au Kodesh, dans le sens d'un limoud, d'une étude, d'un rapport à la pensée. Donc là, on va reprendre cette mise en parallèle entre Kodesh sacré et étude, pensée. Donc ce qu'on pourrait décrire comme un passage du Beth Amikdash au Beth Amidrash, c'est-à-dire du temple à la maison d'étude, nous permet de donner une signification beaucoup plus concrète à la mort dont se rend passible celui qui vise un tout Kodesh, une toute pensée. Dans le sens où la confrontation à tous les niveaux, allant jusque dans le monde réel, est une condition nécessaire pour conserver ou avoir une pensée vivante. Le continuel aller-retour entre ma pensée et le monde est la garantie non seulement, bien sûr, du progrès dans le monde, mais surtout, en ce qui nous concerne, du progrès de ma pensée et de son évolution. En ce sens, la vie de la pensée ne peut pas se passer de cette confrontation. Au contraire, une fuite du monde, à la manière d'un contemplatif, aboutit à un néant de pensée. L'immédiateté de la consommation de la pensée dans une dimension qui en resterait au niveau de la pure pensée, causerait la perte de toutes nos pensées, même les plus spirituelles. Pardon. Une fois que c'est pensé, c'est fini. Ce qui débouche sur le rien. C'est la conscience de la nécessité de traduire ces pensées en actes qui va pouvoir les rendre vivantes. Le travail, ici au sens large de l'action, mais l'action par excellence, c'est le travail, a donc fonction de créer une distance entre moi et mes pensées. De la même manière, dans la Torah, les plus hautes pensées sont traduites en mitzvot. Et là, même si la traduction en acte, donc dans le cas des mitzvot, la traduction en acte des plus hautes pensées, mais livrée et codifiée, sous la forme des mitzvot, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui introduit cette distance. Donc, entre la pensée et mon être, et mes actes. Le travail permet donc, dans ma confrontation au monde, en partant d'en bas, de maintenir cette distance que la Torah, partie d'en haut, si l'on ose dire, a ouverte par les mitzvot. Rav Gedalia disait qu'une melacha, un travail, c'est un émissaire, un malach, entre moi et le monde. À l'homme qui est par trop attiré par le Hekdesh, on lui dit « Ici, tu dois aimer le travail, car c'est par lui que tu vas faire vivre ton Kodesh, tes pensées, et sans cesse les renouveler. » On a donc une autre tension que celle de l'emploi du temps entre étude et travail. C'est la tension entre profane et sacré, puisque le travail est un acte profane qui permet d'actualiser le sacré dans le réel. Et actualiser le sacré dans le réel, serait-ce désacraliser le sacré ou bien serait-ce sanctifier le quotidien? Ou encore les deux? Lorsque l'on envisage que ce soit les deux, on veut dire en fait que la distinction entre sacré et profane, pour essentielle qu'elle soit, n'est nécessaire que pour mieux s'estomper dans l'échange mutuel qui est fait entre l'un et l'autre, dans un mouvement incessant d'aller-retour où chacun se nourrit de l'autre pour finalement ne faire qu'un, ni sacré ni profane, mais bien vivant. Voyons maintenant la suite du texte. Après l'enseignement de Rabbi Akiva, c'est au tour de Rabbi Doustaï de prendre la parole. Je cite, Rabbi Doustaï a dit « D'où sait-on que s'il n'a pas travaillé durant les 6 jours de la semaine, qu'il devra travailler pendant les 7 jours. Voici qu'un homme se serait installé, donc je continue la citation, voici qu'un homme se serait installé pendant les jours de la semaine sans travailler. À l'arrivée du Shabbat, il n'a plus de quoi manger. Il est allé et est tombé aux mains de la milice. Et ils se sont saisis de lui en l'attrapant par le cou. Et ils ont fait son sujet un travail le Shabbat en le mettant à mort. Tout cela du fait, je continue la citation, pardon, tout cela du fait qu'il n'a pas fait de travail pendant les 6 jours de la semaine. On a dans l'illustration de Rabbi, fin de citation, pardon, on a dans l'illustration de Rabbi Doustaï plusieurs points communs avec celle de Rabbi Akiva. L'histoire commence de la même manière, c'est un homme qui est resté toute la semaine sans travailler et finit également de la même manière, cette histoire, par la mort. La différence est que chez Rabbi Doustaï, à défaut d'être une peine de mort céleste, comme chez Rabbi Akiva, c'est d'une mise à mort par la milice dont il est question. Mais plusieurs remarques semblent s'imposer sur l'illustration de Rabbi Doustaï. Tout d'abord la question, d'où sait-on, donc je cite, d'où sait-on que s'il n'a pas travaillé durant les 6 jours de la semaine, qu'il devra travailler pendant les 7 jours? Donc Minaim, donc d'où sait-on, cette expression-là, est une question qui fait appel habituellement à une réponse du type verset ou équivalent, un référent textuel. Or là, on nous raconte une histoire. Première question. De plus, que veut dire Kol Shiva qu'il devra travailler pendant les 7 jours, alors que selon l'exemple cité plus tard, il n'a causé de travail uniquement le Shabbat. Ensuite, dans l'exemple cité en réponse, on ne nous dit pas ce qui a fait qu'il soit arrêté par la milice, la cause de sa mise à mort. Même si du contexte, on comprend qu'il s'agit probablement d'un vol qu'il a commis ou quelque chose de ce genre, comme si, mais en tout cas, le fait que ça reste implicite semble signifier que ce n'est pas important pour notre propos. Même la mise à mort est sous-entendue. Et ils firent une melacha à son sujet. Quand j'ai dit ils firent une melacha à son sujet en le mettant à mort, c'était un rajout de notre part. Presque comme si la véritable condamnation était de faire une melacha plutôt que de mourir. De plus, la milice, rend la melacha inévitable. C'est l'aspect nécessaire du travail qui est mis ici en relief. Le projet de ne pas faire de travail pendant toute la semaine est vain. Et celui qui le conçoit, ce projet, va finir par travailler. Si ce n'est pas lui-même, ce sera d'autres pour lui, donc la milice en l'occurrence. Si ce n'est volontairement, ce sera à son corps défendant, pris par le coup. Et enfin, si ce n'est pas une melacha de vie, ce sera une melacha de mise à mort. Mais cette illustration nous invite à une autre lecture. Cet exemple nous invite à une autre lecture. En effet, on parle du Shabbat. On peut entendre le Shabbat comme un avant-goût du monde du Olam Haba, monde du salaire, disons. Le monde qui vient, qu'on peut décrire comme une vie d'intellect où le matériel n'aura plus sa place et d'où a priori l'interdit de faire des melachot et d'où l'explication a priori de l'interdit de faire des melachot, des travaux, le Shabbat. Mais pour que cet intellect puisse vivre, donc pour qu'il puisse se maintenir dans le Olam Haba, il faut l'avoir rendu vivant dans le corps, dans le Olam Hazeh, dans les 6 jours de la semaine. Une fois dans le Shabbat, on ne vit qu'avec ce qu'on a déjà mis en place pendant le Chol, le profane, dans sa confrontation au profane. C'est une nécessité qui est de plus inéluctable à la condition humaine, puisque tout au moins le passage... Puisque, au minimum, le passage... Je ne comprends pas ce qui est écrit. Puisque, tout au moins, le passage même au monde où le corps n'a plus d'importance, nécessite une melacha. C'est-à-dire le passage dans l'au-delà nécessite même une melacha. C'est l'enseignement de Rabbi Doustek. Voilà. Conclusion. Loin d'avoir résolu les tensions, nous en avons fait apparaître de nouvelles, dont la dernière est celle entre la vision de Rabbi Akiva et Rabbi Doustai. Disons, entre valeur, tension entre valeur et nécessité. Puisque Rabbi Akiva insiste sur la valeur du travail comme construction du Beth Amikdash et Rabbi Doustai sur la nécessité, dans le sens ton être au monde te contraint à travailler, même si tu cherches à le fuir. Alors, donc revenons sur la première tension dont on avait parlé, la tension d'emploi du temps, pour dire qu'elle sera traitée dans le deuxième cycle. Et la deuxième tension entre profane et sacré, c'est ce que nous avons commencé à essayer de traiter ce soir et que l'on continuera de traiter dans les deux autres interventions de ce cycle. Et enfin, la troisième, entre valeur et nécessité, sera abordée dans le troisième cycle, du travail comme positionnement de l'homme dans le monde, où il sera dit que le positionnement de l'homme face à son travail détermine son positionnement dans le monde, aussi bien dans ses relations humaines que dans son rapport au Hekdesh et à Kadosh Baruch Hu. Le dernier cycle traitera, si Dieu veut, d'aspects plus concrets dans le travail, l'éthique et nos relations avec les goyim, nous, et avant la conclusion générale par Rav Yehoshua Grandstein. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. Enfin, nous attendons vos questions. Moi, c'est qu'il n'y a pas de.
Il y a
des critiques.
Moi, je donnerais un petit peu des questions qui ont été posées par écrit et des gens qui n'ont pas pu être là ou qui sont même Israël, aux États-Unis, réellement international.
Je pense que, enfin, je sais pas si. peut-être que ce qui a été dit dans le texte par rapport au fait que le travail est la possibilité de maintenir la séparation entre pensée et vie. C'est-à-dire que le travail, au fond, c'est le maintien de cette séparation dans la vie. Donc je ne pense pas qu'on ait dit que finalement cette séparation était niée. Enfin, je n'ai pas l'impression. Je pense que le sens... Ouais. Moi non plus.
On a raté une bonne mesure. Il y a peut-être des choses que vous avez effectivement expliquées qu'on devrait louper. Et la définition du travail que vous faites, c'est par rapport à la l'apôtre du Shabbat. C'est ce que j'ai pu comprendre. Pour être clair. C'est ça ouais. Le travail. Hein. C'est au sens du Melachah qui est impossible au Shabbat. C'est donc
ouais.
Ça le travail.
Ouais. Mais dans le sens aussi que les Melachot interdisent le Shabbat. Ce sont les Melachot qui concernent la construction du temple.
Juste pour répondre à madame, on ne cherche pas à faire un rapprochement entre Kodesh et Chol. Notre point de départ, c'est le texte, et le texte nous dit qu'un homme est attiré par le Kodesh. Il a cette aspiration-là. Donc il y a une tentation perpétuelle pour oublier cette différence. Et ce que l'auteur a voulu montrer, c'est comment, malgré cet élan-là qu'on a, maintenir cette différence-là en restant dans le concret, là où on est.
Voilà. Et en fait, dans cet élan-là, hein, qui est un élan d'amour, il y a une possibilité que cet amour se retourne en haine pour le travail. Donc on dit « aime le travail ». Comme possibilité de maintenir vivant cet élan.
Et cette position qui veut dire que l'homme est attiré, je veux dire, ontologiquement par le collège, c'est toujours un peu.
Mais c'est une.
Rabbi Akiva.
C'est justement cette.
J'ai pas arrêté de penser, je m'excuse parce que c'est pas arrêté de penser à toute la conférence avec tous ces débats qui existent en Israël et ailleurs, c'est des choses qui consacrent exclusivement. L'Israël, encore une fois, ou quel type de parasite ?
Non, j'ai la question, même question qui vient justement de ça. Travailler dans tous les cas, je lis, hein, je découvre en même temps du texte. Le cas du Cohen est intéressant, justement, ce qui se travaille pour le Beth Amidash, mais sans salaire à proprement parler. Il est pris en charge par la communauté. Qu'est-ce que dire de ce cas-là? Quelqu'un est totalement dans le Kodesh, il peut parler de travail, qu'est-ce qu'il fait? Puisque, pour reprendre ce qu'on vient de dire juste avant, on a bien vu que tout l'enjeu était de poser le travail comme une façon de gérer un rapport entre le Kodesh et le Chol. Si on est tout du côté du Kodesh, on a bien vu qu'en fait ça peut se retourner complètement dans son inverse et on peut avoir un riloul du Kodesh si on croit qu'on peut être tout le Kodesh. Et alors, évidemment, si on est le Chol, évidemment, on a aussi une difficulté à gérer un rapport avec le Kodesh. Donc tout l'enjeu du travail et la gestion de ce rapport et la tension pour reprendre ce qu'a dit l'auteur au nom de la prochaine. Cette tension. Alors, réponse sur ce cas du Cohen. Le cas du Cohen est effectivement une question, puisque lui, justement, n'évolue que dans le Cohen. Ce qui lui inflige d'ailleurs toutes sortes d'interdits particuliers, pouvoir vivre à ce niveau de Kedusha sans prophète. On pourrait donc exclure le Cohen de ceux pour qui le rapport au Hekdesh, qui est dangereux à maîtriser par le travail, le rapport au Hekdesh qui est dangereux.
Le Cohen délègue,
qui le rapport au Hekdesh qui est dangereux est à maîtriser par le travail. Puisque lui, le Hekdesh, c'est ça. Il n'a pas maîtrisé par le travail ce rapport. Ce cependant, et c'est-à-dire que le problème
il
du
étudie.
Travail ne se pose pas pour lui. Alors,
c'est la même chose.
Effectivement. On ne sait qu'élargir la question en fait en citant à ce propos des paroles des Rambam qui dit à la fin des halakhot qui ont trait à l'étude à propos des Lévites, donc la tribu des Lévites de laquelle sont issus les Kohanim, qui n'avaient pas reçu de part au partage de la terre d'Eretz Israël parce que justement leur vocation était d'enseigner la Torah et à ce titre la communauté devait les prendre en charge. Donc le Rambam dit là-bas que ce ne sont pas uniquement des Lévites dont il s'agit, mais de tout homme qui sait prendre la Torah au point de ne plus pouvoir exercer le travail. Celui-là aussi, Rambam, la communauté devra subvenir à ses besoins et l'entretenir. Rambam, bon, il y a d'autres opinions, effectivement celle-là, c'est à la faute, elle est évidemment très forte, une grande autorité. Ramoshé dit donc aussi, là je le cite, donc je ne vous dis pas ça, ça en le comprenant sur quoi la lueur notre exposé, mais dans celui d'ouvrir le questionnement là ce soir. On réouvrira ce débat un peu plus tard, dans d'autres moments du séminaire.
Peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est que le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol est dans le service du Bet Hamikdash, donc de la résidence de la Shrina. Donc, il ne nie absolument pas la nécessité de résider au cœur du monde. Et de plus, il délègue le travail, c'est-à-dire qu'il est nourri par les autres. Donc, il n'est pas son rapport, disons, au Kodesh, permet de donner le sens. C'est ce que l'enseignement de Rabbi Akiba, l'enseignement le plus percutant, me semble-t-il, de Rabbi Akiba, c'est que le travail du Bet Hamikdash et le service du Bet Hamikdash donne son sens à tout autre travail. Donc il n'a pas du tout une attitude de mépris à l'égard de ceux qui travaillent, mais il sait que sa position donne son sens au travail. Et selon le Rambam, c'est la même chose du point de vue de l'étude. C'est-à-dire que c'est pas de l'ordre du pas de parasitisme, mais une façon de maintenir dans le monde le sens de l'amour, du travail. Je ne vais pas compter. C'est quoi? Rappelez-moi juste. C'est quoi la question déjà? On a oublié.
Plutôt oui, plutôt non. Le travail.
Ah, non, ça c'est le titre du séminaire, donc il va falloir demander à la fin.
Des formes de pulsion, de choses qui traversent
Il faut comprendre que ce n'est que dans la finalité du travail, dans la finalité du sacré, que ces deux forces pouvaient être dites soit une valeur, soit au contraire, soit une nouvelle. Et que la réponse que vous avez apportée me semble être plutôt négative. On va dire autrement, le travail ne serait pas une valeur.
Non, enfin, je crois qu'on n'a pas dit ça. Mais que ce que vous dites, enfin, on a parlé en fait. Je vais reprendre ce que vous dites par rapport à la maîtrise, le rapport de maîtrise dans la pensée ou au Kodesh et le rapport de maîtrise dans le travail peut donner lieu à des dérives, en fait. C'est-à-dire que si c'est pour ça qu'on a bien expliqué, enfin, on a essayé d'expliquer que l'amour du travail, pardon, qu'un certain rapport ou Ekdesh à la pensée pouvait mener à la haine du travail. C'est-à-dire que cette maîtrise de la pensée peut justement amener à la croyance qu'il n'y a plus de séparation entre moi et la pensée. Et ça, c'est une croyance mortelle. C'est-à-dire que ce sentiment de maîtrise peut mener à une fixation. Et de même, le travail, si le travail est défini simplement comme une maîtrise dans le monde, pas sous la forme de la pulsion, mais sous la forme d'une construction précise et rationnelle du monde, le fait que le travail ne... Enfin, ce que permet Rabbi Akiva, pardon, c'est de faire que ce travail n'a de sens et garde un sens d'amour que dans la mesure où il est signifié par le Beth Amikdash, par le sens du Beth Amikdash. Donc voilà. C'est-à-dire que, enfin, je pense que aime le travail et ne hais pas le travail. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de dire, je pense, c'est que dans le rapport à la pensée, il peut y avoir une forme de maîtrise où on perd la nécessité. Et enfin, on oublie la distance entre le sens et moi, entre la pensée et la position qu'on occupe dans le monde. Et de même, le travail, je ne pense pas qu'on l'ait décrit comme une pulsion ou quelque chose qui, une tension naturelle, etc. On a dit que le travail c'était une position rationnelle, une prise de position dans le monde. Et cette prise de position dans le monde ne peut être aimable, disons, que dans la mesure où elle n'oublie pas le sens de la construction du Beth Amikdash. C'est-à-dire d'un rapport au maintien de la pensée. Maintien de la pensée comme vivante. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Dans ce cas-là,
ça vous a...
c'est plus un moyen.
Absolument. C'est le moyen de construire le Beth Amikdash.
Dans le sens du travail, on peut élever notre pensée. C'est grâce au travail qu'on peut élever notre pensée.
Ouais. L'élever en la faisant redescendre. Ouais. Alors, tout le monde aime le travail. Je pense que c'est ça.
On n'a pas
entendu.
Si le Beth Amikdash est construit, donc qu'est-ce qui se passe? Puisque travail existe. Qu'est-ce qui se passe? Le travail ne disparaît pas.
Mais les mêlards de chaman. Ah, les melachot de Shabbat, c'est les melachot du fonctionnement du temple aussi. Donc il y a un travail. Il y a un travail qui continue. Peut-être que je peux essayer de commencer à... par rapport au lien qu'on a fait.
Je reprends votre question en
ah.
Donc, il faudrait mieux définir ce que l'on entend par travail. Bon. Est-ce que le propos de ce séminaire porte sur le travail en général ou certains travaux en particulier de quoi parle-t-on? Réponse donc de rapprocher. Effectivement, là on a employé des termes, on ne les a pas tout à fait définis, en ayant déjà dit beaucoup de choses sur ce qu'il y avait derrière le monde des Melachot, de la Avoda, de la Asida. Alors, Moshe nous dit qu'effectivement, on reviendra dans le cadre du séminaire. Sur les différents termes qui sont employés et les raisons de dénominations différentes. Enfin, les occurrences, ça ne sera pas la prochaine fois, mais on y reviendra plus tard, qu'il y a dans le Humash, les premières occurrences sur le terme de Avoda, etc., sont tout à fait intéressantes à regarder de près. Donc, si vous êtes assidu au séminaire, je vous promets que reviendra en détail là-dessus, c'est ce document assez riche. Alors, donc là, vous allez dire, bon, ben oui, je ne répondrai pas à la question. Donc, Moshe nous dit, on peut malgré tout essayer de répondre à la question en revenant à notre fameuse méthodologie.
Ouais.
C'est l'illustration qui nous est donnée par Rabbi Akiva de tout travail, par celui qui travaille en fait un mitage. Donc,
c'est ça.
C'est l'exemple de travail par excellence.
Voilà, c'est le travail qui dit le sens de tout travail.
Voilà. À savoir que la transformation qui a
Peut-être juste pour dire qu'on avait essayé de faire une mise en parallèle entre le Hekdesh, le Kadosh, le sacré, et le rapport au Limoud et à la pensée. Donc, voilà.
Alors, il y a d'autres choses, c'est-à-dire qu'on dit que là, il y a une façon de traduire mes pensées dans le monde du réel.
Voilà. Voilà.
Ça, on appelle ça le travail.
Ouais.
C'est dans la notion de Mélara, il y a une pensée traduite dans
qui cherche à faire résider dans, à faire que le travail soit un lieu de résidence de la pensée, on va dire.
D'où vient cette pensée ?
De Rabbi Akiba ?
Non.
Ah, pardon.
Excusez-moi. Est-ce qu'elle revient, elle remonte aussi de, comment ça se fait ?
De l'étude. De l'étude.
Alors, le Beth Amidash dans les paroles de nos maîtres est comparé à un microcosme. C'est une réduction, c'est le monde en maquette, en tant que corps, d'autres commandes du monde. Tout ce qui est fait à l'échelle du temps a une correspondance dans le monde en grand. Donc, construire le temple selon cette idée, donc c'est pas simplement poser des pierres les unes sur les autres, des poutres et des choses, c'est selon donc, cette intention, c'est construire le monde. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend ? C'est qu'effectivement, il y a une grande importance de l'intentionnalité. Qu'est-ce que je construis au service de qui ? Qu'est-ce que je fais dans le monde ? Et donc, il n'y a pas des actes comme ça qui seraient appelés travail, parce qu'il s'agit d'une dépense d'énergie, de quelque chose. Non, c'est, on voit bien que nous, là, dans notre notion, la notion de travail, effectivement, est tout à fait... dirigée, en quelque sorte. Elle est elle-même construite, la notion de travail. Elle ne vient pas comme ça. Elle n'est pas naturelle, en quelque sorte. Un rapport entre le réel, ma pensée, une intentionnalité, le Hekdesh, le Kadosh, le Kodesh, le Chol. On voit que la notion de travail n'est effectivement pas du tout une dépense naturelle d'énergie, quelque chose qui serait comme ça, ou selon des lois purement professionnelles. On y est visiblement dans la Torah un sens. Il rassemble des notions où la pensée, donc le limoud, l'intentionnalité, on place là-dedans. Alors, on pourrait donner une définition du travail qui reste encore très large à ce stade, mais on s'est inscrit là-dedans dans le séminaire. Travailler, c'est participer à la construction du monde. Donc j'en profite pour répondre à des salaires, a priori. Valeur au travail. J'avais une réponse. Je termine. Par contre, cette définition, malgré son aspect englobant, n'englobe pas, par exemple, les travaux de construction des villes de Pithom ou de Ramsès, les villes qu'ont fait construire les Égyptiens par les Bnei Israël dans les stades de Mouvement, sans penser au travail qu'ils construisaient, ni les travaux inutiles qu'ont fait les nazis et leurs victimes dans le seul but des Égyptiens. Donc c'est une définition du travail par son utilité, pas par l'effort, la sueur, la souffrance éventuellement qui demande.
Alors finalement,
on commande
l'eau, puisque c'est tellement présent. Donc, on parle déjà de la transformation de la pensée en émotion, donc c'est présent chez nous. Comment aujourd'hui on peut appliquer la notion d'intégrer la construction de la pensée dans le travail?
Je sais pas si j'ai bien compris. Dans le travail, il y a nécessairement une construction de quelque chose. Donc, le sens de cette construction ne nécessite pas forcément. T'es pas d'accord? Il n'est pas d'accord avec vous. D'après ce que vous voyez, pour l'instant, on ne parle pas d'intentionnalité.
Enfin, pour l'instant, on n'en parle pas.
Voilà, on parle de simplement du travail comme construction.
Okay, d'accord.
Le sens de la vérité. Selon quoi?
C'est la réalité.
Qu'il y a dans tous les travaux. Donc, cette construction, c'est la réalité qui se trouve dans tout travail. C'est ça? Si. La construction, le sens que le travail du Beth Amikdash, je ne sais pas si le travail du Beth Amikdash est conçu comme construction du monde, tout travail en tant qu'il est travail et pas justement travail complètement abrutissant est constructif, donc participe de ce sens là. On n'a pas tous. Ah, on n'a pas tous la même étude. L'étude, c'est justement qu'on n'ait pas tous la même étude. L'étude, c'est la confrontation de soi avec le texte. Donc forcément, c'est une confrontation personnelle. Le projet, c'est de se confronter. C'est juste, mais c'est déjà présent dans l'étude. Et on a bien dit que cette distance, elle était déjà établie dans la mitzvah. Les plus hautes pensées de la Torah sont traduites en mitzvot. Donc il y a déjà l'étude, ensuite les actions, les mitzvot, et ensuite le travail. Dans la mesure où l'étude est dans le monde, il n'est pas exprimé. C'est dans le travail. Donc, ce que vous dites, d'après ce que j'ai compris, dans la mesure où l'étude n'est pas exprimée dans le travail, ce que vous dites est juste. C'est-à-dire que le travail, c'est une manière de vivre sa singularité dans cette confrontation au monde. Mais cette singularité, elle est déjà dans l'étude. Ouais. Elle est aussi, mais mais il semble que voilà, melacha entendu comme prolongement d'un malach, c'est ça, hein? Il y a ce sens de reconduire quelque chose. Et c'est dans l'étude qu'est donné le sens de la construction du Beth Amikdash comme travail par excellence. Mais pardon. Ouais.
Puisqu'il n'y a qu'un Kohen Gadol à un moment donné. Cohen Gadol, effectivement, est lui aussi pris en charge par la communauté, et que son tapis, sa fonction, c'est de faire en sorte justement de donner un sens au travail, si j'ai bien compris ce que vous avez expliqué.
Donc c'est ça, oui. Très bien.
Par contre, je ne comprends pas bien comment on peut passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire du Cohen Gadol au clan.
Dans la première partie. La Gemara dit. Que tous les travaux, non. Tous les Kohanim sont dans des émissaires.
Ils sont des émissaires. Ils sont des émissaires d'Israël.
La Gemara dit que tous les Kohanim sont des émissaires d'Israël. Des Bnei Israël. Ils représentent les Bnei Israël dans leur travail. Pas uniquement. Pas uniquement le Kohen Gadol.
C'est
digne d'arabe. D'accord. Avec qui on a parlé? C'est moi. D'accord, donc c'était une erreur de ma part de parler du Kohen Gadol, il fallait parler de tous les Kohanim. Je dis non. Pardon. Parce que le manger, c'est le paradigme de l'intériorisation. Donc du rapport qu'on nourrit à l'égard du monde. Enfin, ouais, je pense que c'est ça. Donc la possibilité, pardon, le travail comme confrontation au monde va nourrir mon intériorité. Donc le souci de comprendre que en me confrontant, je vais être nourri, c'est ça qu'on dit. Il faut travailler les 6 jours, sinon on n'aura rien à l'intérieur.
Puisque vous dites donc aime le travail c'était implicite, mais si je me trompe, je voudrais donc être redressée. C'est, en fait, bon, on nous parle du travail, et de quoi on nous parle à propos du travail, c'est du bête anecdote, c'est-à-dire de ce à quoi on ne penserait pas pour le travail, justement, c'est-à-dire de ce qui est le travail, finalement, de lien avec le divin, c'est-à-dire que d'emblée, finalement, l'étalon du travail, qui est pourtant, a priori, notre entretien matériel, notre... la construction de notre petite place dans le monde, éventuellement la construction du monde, mais peut-être pour nous. En fait, d'emblée, ça nous est présenté absolument pas comme ça, mais comme la construction du lien du groupe d'émissaires vers le divin. Donc on nous dit finalement, le travail, aime le travail, mais au même moment où on nous dit aime le travail, on nous dit voilà quel quoi travail tu dois aimer. Je pense que c'est ça qu'on nous dit, tu aimes le travail, qui est ce travail du bête amygdale que tu vas reproduire comme étant, ayant la même finalité finalement du travail du métalitage, qui est la construction du lien avec le divin. Alors, est-ce que ça pouvait vouloir dire qu'on avait un élan qui était de haïr le travail, ce que j'entends très très bien, et spontanément, et donc on nous dit aime le
mais
travail.
Mais on a précisé quand même que cet élan n'était pas spontané.
Ça dépend des gens.
Oui, non, on comprend tout à fait. Non, mais...
Excusez-moi d'avoir personnalisé le débat avec France.
Non, mais je vous comprends parfaitement sur ce point. Mais.
On a discuté avec la Tora. Ouais. Généralement, la Tora voit ce que vous faites spontanément. Elle dit respecte ta mère et aime ton père et ce genre de choses. Donc là, elle nous dit aime le travail et aime le pouvoir. Alors, on pourrait en déduire si on n'a pas l'esprit trop bien passé qu'on aurait tendance à haïr le travail et à aimer le pouvoir. Et donc, si finalement on nous a dit aime le travail, mais quel travail? Le travail qui consiste à envoyer des émissaires vers le divin, même dans ton travail quotidien, même dans celui qui va te nourrir, le pain n'étant pas que le pain qu'on mange, alors à ce moment-là, est-ce que ça voudrait dire que précisément ce qu'on construit, eh bien c'est justement pas un pouvoir? C'est-à-dire que quand on travaille, si on comprend que le travail qu'on va aimer, c'est celui qui va finalement être du même ordre que le Kodesh finalement, parce que sa finalité sera le Kodesh. Alors ça veut dire qu'on s'écartera d'un amour du travail qui serait un amour du pouvoir, c'est-à-dire de creuser notre petit trou dans la terre, ou de se faire un nom comme à Babel, de nous faire un autre nom pour construire notre petit tour, et d'aimer cette tour pour elle-même et pour quelque chose qui serait complètement. Et donc, est-ce que ça pourrait être ce pouvoir-là qu'on devait détester et qu'on aurait compris quel était le pouvoir qu'on devait détester, justement parce qu'on a compris quelle était la nature du travail qu'on devait aimer?
Je comprends pas ce que tu as écrit là. Ouais, j'essaie de.
C'est-à-dire que finalement, l'amour du travail, c'est l'amour d'un travail qui est un travail de construction d'un lien avec le divin. Mm-hmm. Et même lorsqu'il n'est pas uniquement étude, mais qu'il ressemble à ce qui est notre entretien matériel, la construction du monde, la complétion du monde, c'est quand même du même ordre que le travail du bête amygdale.
Ouais.
Et on nous dit, ce travail-là, si tu le fais dans cet ordre-là, tu l'aimes, tu dois l'aimer, tu peux et tu dois l'aimer.
Tout à fait.
Mais il exclut finalement un travail qui serait uniquement en soi pour nous construire en dehors de ce lien avec le divin, un peu comme ce qu'on voulait faire à Babel, et finalement, qui est du pouvoir, qui est une tentative de pouvoir. Et dans ce cas, la conséquence de cet amour, de ce travail-là, serait et est le pouvoir, ce pouvoir que tu aurais tendance à aimer, qui est le pouvoir de ce que ton travail en soi te procurerait à toi, banalement argent, respect, etc., même construction, mais qui serait en dehors de toute recherche d'un lien avec les liens. Ouais. Je ne sais pas si ça pourrait être
mais, ça. C'est très bien, oui. Enfin, moi, mais en fait, vous parlez d'un texte de la Mishnah, donc des Pirkei Avot, qu'on n'a pas abordé en tant que tel, qu'on a juste... C'est-à-dire que, parce que nous, on a juste fait de la lecture que les Avot de Rabbi Nathan font à propos de aime le travail. Et on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme doit aimer le travail et ne pas haïr le travail. Donc c'est juste on s'est maintenu là-dessus. Donc après, ce que vous dites, c'est peut-être... Mais c'est juste que vous... C'est juste, d'accord. Donc c'est très bien, bravo. Vous avez été plus loin que nous.
Voilà. Ça redonne de la valeur à chaque geste, à chaque chose que l'on fait en réalité.
Voilà.
Au quotidien.
Ouais.
À chaque instant.
Super. Il me semble qu'il est le travail et accepter la place que notre rôle nous a donnée sur cette terre, qui
que sa chaîne peut résider dans le monde, mais peut résider à l'intérieur.
Avait très succinctement évoqué peut-être en disant que pour Rabbi Akiva, le travail était une valeur, c'est-à-dire une possibilité de maintenir un rapport au Hekdesh vivant, et que pour Rabbi c'est au fond de l'ordre de la nécessité, c'est-à-dire du rapport à la façon qu'on a d'être en bas, d'une acceptation de ce que c'est ça, quoi, en fait. Enfin, qu'il y avait comme une contrainte, un état de fait. Donc je ne sais pas si je réponds, peut-être un peu, pas vraiment, mais... Donc que ces deux dimensions, elles font partie d'une des tensions qu'on a plus ou moins présentées, comme vous l'avez très bien suggéré. Il me semble que l'enseignement de Rabbi Doussaï évoque ça. Il va dire que même si lui ne travaille pas, il va faire travailler les autres, ou alors sa mort même va être un travail. C'est-à-dire qu'on est, la condition mondaine, on va dire, c'est d'être en société et d'être, de devoir vivre ses contraintes. Et l'exemple du cordonnier, on l'a enlevé, mais il est tout à fait bienvenu dans cette expo. s'il n'y a plus d'autres questions, on vous remercie. Je tiens à remercier Moshe Grunstein pour son enseignement. Ça me fait plaisir. Pardon ? Les gens ont bien participé, ouais, très bien. Ouais. Non, c'était bien. Ouais.
Excellent, bravo.
Oui, non, d'accord, je sais bien, mais... C'est un nom espagnol, mon grand-père est arrivé là. Demière, vous connaissez les Demières ? C'est ma grand-mère qui s'appelle Demière. Mais je connais mal Lausanne.
Ouais, c'est tout jeune. Ma femme est de Lausanne.
Vous vivez à
Lausanne ?
Ah non, d'accord.
Sur la même liste.
une chose, oui, qui est facile. Ça, c'est vraiment le, la base dont on parlait, c'est la base. Sinon, les sollicitations qui sont faites.
Non, mais même si c'est la bonne réponse, hein, par exemple.
Non, mais j'ai déjà la
fois
que
je
parle
de
ça.
Je crois que vous avez fait référence à un point du mot, là, on vient avoir les. Voilà, si ça vous le rend bien,
oui, c'est vrai, ça sera le bon.
J'aime bien avoir.
Oui, bien sûr, non, c'est au
contraire. Ok, bon.
Merci
beaucoup.
Thank you.
parle des deux heures
sans intervention.
Je me lève.
Tu vas parler avec ton camarade.